Europe 1.
Lorsque la vie nous confronte aux pires épreuves, lorsque l'avenir semble perdu, il est fréquent de baisser les bras et de céder face au destin. Mais certaines personnes arrivent à remonter des profondeurs. Elles parviennent à dépasser ce qui semblait insurmontable. C'est ce qu'on appelle la résilience. Comment peut-on se surpasser face à un traumatisme qui aurait pu nous détruire? Quels sont les ressorts qui permettent de se reconstruire et de vaincre la fatalité? Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Jean-Philippe. Victime d'abus sexuels, il aurait pu connaître un tout autre destin. Mais il a choisi d'être fidèle à sa foi. Vous allez vite comprendre. Je suis Olivier Delacroix. Vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier. Soyez les bienvenus. Ce soir, j'ai rendez-vous avec un prêtre pas comme les autres. C'est à bord de ce camping-car que je retrouve le père Jean-Philippe. Comme tous les soirs depuis 15 ans, le camion de son association Magdalena parcourt les allées du bois de Boulogne à la rencontre des travestis prostituées qui y travaillent. Plus habitué aux insultes qu'au respect, cette population s'est d'abord montrée très méfiante à l'égard de cet homme d'église. Mais à force de venir, de proposer son écoute et son regard bienveillant, le père Jean-Philippe a réussi à se faire accepter.
Tu dois être avec quelqu'un là, non ? Ah non.
Ça va ?
Bonsoir. Tu veux quelque chose ?
Ouais.
Du gel, c'est tout ? Tu veux pas un café, un thé, un chocolat ?
Chocolat.
Hein ? Chocolat chaud ?
Chaud.
Il y a un truc à manger, non ?
Non, non.
T'as pas faim ?
Le père Jean-Philippe distribue à tous l'attention que lui-même n'a pas reçue dans son enfance. Le camion est devenu un repère, un moment de répit pour tous ceux qui travaillent ici.
Comment vous appelez ?
C'est moi, il m'appelle Papillote.
Papillote ?
Eh oui.
Et vous, vous attendez tous les soirs le bus ?
Oui, que je vois le... J'attends pas toujours le bus, mais que je vois, ça fait plaisir.
Uh-huh.
On est deux prostituées.
Ouais.
Tu vois, par exemple, ce soir, j'ai sorti, pas pour plaisir, j'ai sorti pour gagner un peu d'argent pour survivre.
Ouais.
Pas pour vivre, pour survivre. J'ai pas le choix, voilà. C'est tout. Il faut que je sorte et je suis pas content d'être là.
Ouais.
Voilà. Vous me donnez les préservatifs, ma chérie.
Tenez.
Voilà. Merci.
La distribution de préservatifs fait aussi partie de la mission que le père Jean-Philippe s'est fixée avec ses bénévoles. Pour en savoir un peu plus sur l'histoire de ce prêtre pas ordinaire, j'ai pris rendez-vous avec lui le lendemain dans sa paroisse. La paroisse Sainte-Cécile ne se trouve pas dans un quartier populaire, mais à Boulogne-Billancourt, une banlieue chic de la région parisienne. Et c'est pourtant là qu'officie cet homme qui a voué sa vie aux toxicomanes, aux détenus et aux prostituées.
Les gens qui arrivent au premier et qui a laissé le client passer, voilà, j'ai rien à te donner, mais tout ce que j'ai, je te le donne. Ah, je crois qu'il faut garder cette parole dans notre cœur. Il est catho, il n'est pas catho, il est... Bon, c'est un homme.
Jean-Philippe n'était pas prédestiné à devenir prêtre. Issu d'une famille pauvre, une enfance sur fond de violence et d'alcool, il grandit avec des parents incapables de l'élever et qui le laissent livrer à lui-même. Lorsque ses parents divorcent, les quatre enfants du couple sont envoyés en pension chez les religieuses.
Mon père.
Jean-Philippe n'a alors que 5 ans. La privation d'amour continue, les brimades en plus.
Un matin, j'ai pas voulu sortir du lit, j'avais 5 ans. Qu'est-ce que veut un gamin qui a 5 ans, qui ne veut pas sortir de son lit? Un câlin.
Bien sûr.
Et ben, le câlin, c'est ben, tu ne veux pas sortir de ton lit, tu vas rester dans ton lit toute la journée et tu mangeras du pain et de l'eau.
Mmh. En tout cas,
ben, ça calme.
Ouais, ça calme.
Ce n'était pas de l'éducation, c'était du dressage. Voilà, c'est uniquement la brimade. Et quand tu es petit, tu ne poses pas de questions, mais tu obéis, puis tu as peur tout le temps. Si tu rentrais pas. Tu vois, on n'avait pas, le droit de boire. Pourquoi? J'en sais rien. C'est dur pour des gamins, tu cours dans les champs, parce qu'on était en pleine campagne. Et puis t'as pas le droit de boire. Quand tu vas au lavabo, on te surveille. Donc t'as envie de tricher, t'as envie de... Ah bah si t'es pris à boire, waouh. Tu vas à la cave, t'es puni pendant 2 jours.
À la cave ?
Oui, on nous foutait dans une cave.
On vous enfermait dans une cave ?
On vous enfermait dans une cave,
ouais, pendant
dans,
combien de
dans
temps ?
Bah ça pouvait aller d'une heure à une journée. Alors t'as envie de te révolter, mais tu peux pas te révolter. Si tu te révoltes, c'est encore pire.
en tout cas de l'âge de 5 ans à 9 ans.
Pension.
Pension. Pensions, ouais. Donc pension égale prison un peu dans votre tête.
Ah oui, c'était prison. Prison plus la prison intérieure que tu n'as pas le droit d'être toi-même.
Pas le droit d'être soi-même, pas aimé.
Oui, pas aimé, pas d'affection. Mmh. Ça, c'est dur. Hein.
Ouais. Oui, c'est dur. C'est pour ça que je
me souviens. On n'a pas le droit de ne pas donner de l'affection à des enfants.
À l'âge de 9 ans, Jean-Philippe sort de pension avec ses frères et sœurs. Il est confié à la garde de son père, qui entre-temps s'est remis en couple avec une nouvelle compagne et s'est installé en banlieue parisienne.
On arrive dans ce HLM, au 7e étage d'HLM. T'arrives chez toi, on te dit c'est chez toi.
Ouais.
Et puis il y a une dame qu'on te dit, bah voilà, c'est ta maman.
C'est ta nouvelle maman.
C'est ta nouvelle maman, bah ouais, bah tu sais pas toi. Puis mon père arrive, il rentre du boulot, et nous on jette dans ses bras, et il nous a repoussés. Tu vois, ce qui prouve, aujourd'hui je le comprends, c'est un homme qui était blessé affectivement et qui était incapable de donner de l'affection.
Votre belle-mère s'est avérée être aussi alcoolique et violente.
Ouais. Et je me rappelle, j'étais dans la salle de bain, puis là elle commençait à me frapper. Des fois, elle me touchait même. Moi, ça me mettait mal à l'aise, quoi. C'était, tu vois.
Elle vous touchait.
Quoi, j'en ai... sexuellement. Et moi, je... bah, t'es jeune, t'as 12 ans. Tu comprends pas très bien ce qui se passe, mais ça, c'est quand même intime. Et en fait, puis elle se mettait à me frapper, parce que je voulais pas me laisser toucher. Et j'allais, pour pas me faire frapper, j'allais sur le balcon au 7e étage. Et je criais.
Jean-Philippe a 12 ans et vit dans la peur de son père et de sa nouvelle compagne. Il fugue, traîne dans son quartier de la Garenne-Colombes en banlieue parisienne. Lui qui n'a pas confiance dans les adultes va vivre un événement qui va marquer sa vie à jamais.
J'habitais une cité HLM SNCF, et derrière il y avait une piscine et un grand terrain de sport. Et puis il y avait un monsieur qui travaillait dans un truc derrière, on a passé le mur, je sais plus, c'était avec un copain ou avec mon frère. Et puis il nous a accueillis, il montait les voitures sur les trains, c'était marrant pour nous. Puis surtout, il était sympa, il nous donnait des bonbons, mais vraiment... Et puis un jour, il m'a dit, bah, tiens, il faut que j'aille chez moi, tu viens avec moi. Je dis, bon oui, allez faire un tour, moi j'étais partant. Et puis là, il m'a violé. Mais à 12 ans, tu comprends pas ce qui se passe, quoi. Tu vois, je me rappelle qu'il m'a mis sur son lit, puis il s'est passé quelque chose. Mais tu réalises pas. Moi, je n'en ai même pas voulu, tu vois. À 12 ans, t'as pas de sens de la sexualité, tu sais pas ce que c'est. Moi, j'en ai parlé à personne. Mm-hmm. Parce qu'il n'était pas question que mon père sache qu'il y avait un monsieur qui m'emmenait chez lui, qui me donnait des bonbons, dont j'aurais pris sur la gueule encore. Et je découvre que dans le parcours de beaucoup de gens, même les gens qui aujourd'hui vivent une situation de prostitution, beaucoup ont vécu ce que j'ai vécu. Et quelquefois d'une manière très, très brutale et répétée mm-hmm. dans le temps. Mm-hmm. Et c'est comme ça que plus tard, j'ai découvert... Alors, je ne veux pas le condamner, je ne veux pas le juger, ça reste mon papa. Mais un jour, ma sœur, parce qu'elle m'a autorisé à en parler, hein, on parlait de mon papa. Et puis elle se met à pleurer, elle me dit « Mais tu te rends pas compte, Philippe, il me violait presque tous les jours. » Je dis « Mais Chantal, j'étais pas au courant. » Je dis « Mais comment t'étais pas au courant? Tu te rends pas compte? Il venait dans ma chambre. » Je dis « Mais Chantal, j'étais jeune. Mm-hmm. » Moi, j'ai une chose qui me blessait, c'est que mon père, souvent, frappait ma sœur. Même jusqu'au sol, je me rappelle qu'il la frappait, quoi. Je comprenais pas pourquoi il s'en prenait à elle comme ça. Mais on est petit, je n'osais pas la défendre parce que mon père c'était un homme, quoi. Il était assez baraqué. Il n'était pas gros, mais
vous auriez ramassé aussi. Si
ben voilà. Puis tu vis dans la peur, dans l'incompréhension.
Progressivement, Jean-Philippe tombe dans la délinquance. Il vit dans la rue, vole dans les supermarchés, ce qui lui vaut d'être envoyé 2 ans en maison de correction. Jusqu'à l'âge de 17 ans, Jean-Philippe a tout du jeune voyou. Mais il entre alors comme apprenti dans un atelier de réparation automobile et fait une rencontre providentielle, celle d'un homme plus âgé que lui, Fernand, qui va le prendre sous son aile et gagner sa confiance.
Salut Fernand.
Chitichi.
Bonjour. Bonjour Fernand.
Merci de nous accueillir.
Enchanté.
Sa rencontre avec Fernand va littéralement changer sa vie. Fernand nous accueille chez lui dans une banlieue pavillonnaire près de Paris. Il se souvient de sa première rencontre avec Jean-Philippe.
Un jeune garçon, il faisait tout jeune, quoi, c'est, avec ses grands cheveux qui tombaient sur les épaules, c'était un fait. On me l'avait confié quand même comme apprenti. Quoi.
Mais vous étiez quand même au courant des problèmes de violence, d'alcoolisme de ses parents ?
Il me confie quand même des choses parce que, quand ça l'inquiétait, parce qu'à un moment donné, il voulait faire une soirée de drogue. Il voulait se lancer dans la drogue. Oui, ça précise, quand j'ai vu ça, ça m'a un peu secoué. Ouais. Il dit, viens avec moi. Je l'ai monté dans une voiture, on est rentré dans une, on appelait ça la douche, dans une cabine d'étanchéité, où il tombe une cascade d'eau sur la voiture. Mmh. Il dit, comme ça, personne ne va nous déranger. Mmh. Je l'ai pris entre quatre yeux, j'ai dit, tu vois, eh bien, la drogue, c'est aussi un moyen que Satan utilise pour démolir la jeunesse. Et si tu ne fais pas ça, si tu ne lances pas dans la drogue, tu seras plus fort pour aider des copains qui se démoliront par la drogue, dont plusieurs sont morts d'overdose, d'ailleurs.
Si, Fernande, vous ne nous avez pas emmené sous cette douche, là, dans cette voiture...
J'ai un tempérament entier, j'aurais fait comme beaucoup, j'aurais plongé.
Oui. J'étais ferme, hein. J'ai vu ça, j'ai vu rouge.
Non, mais le Seigneur t'a mis sur ma route au moment où il le fallait.
Voilà, ouais, ça.
Encouragé par Fernand, catholique convaincu, Jean-Philippe commence à se tourner vers la religion. Quelques années plus tard, pendant son service militaire, il fait une deuxième rencontre déterminante dans sa vie d'homme de foi. C'est le père Marie-Dominique Philippe, un prédicateur dominicain, qui lui ouvre la voie.
Il prêchait un week-end sur le mystère de la Vierge Marie. Et à un moment, à table, j'étais à une table et lui était à une autre, et il m'a regardé. Et c'est la première fois qu'on me regardait comme ça. Avec un regard, avec un petit sourire. Tu vois, il y avait... Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce regard a changé ma vie. Il y avait un regard intelligent et en même temps aimant. Uh-huh. Mais ça ne peut pas se décrire, ça.
Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que vous sentez ou vous décidez que vous allez devenir prêtre?
Ça a été un pèlerinage à Lisieux, là où a vécu la petite Thérèse. Uh-huh. Et dans la chambre de la petite Thérèse, là où elle avait été malade, elle a été guérie miraculeusement par la Sainte Vierge. Là, j'ai senti le désir dans mon cœur, ça ne s'explique pas, ça. Je ne saurais pas comment mettre les mots, le désir de devenir prêtre.
Un projet qui le transporte, bien sûr, mais qu'il sait être un véritable défi, car il se souvient avoir quitté l'école à 14 ans.
À la fois une joie, puis en même temps, non, je ne peux pas. Je n'ai pas fait d'études, on m'a toujours dit que j'étais nul. Moi, je n'ai pas eu d'éducation, je ne suis pas d'une bonne famille, donc je ne peux pas être prêtre.
Vous continuez à penser que vous êtes un peu le bon à rien qu'on a toujours décrit dans sa jeunesse.
Exactement, oui. Et les cours de philo, moi, j'étais persuadé dans ma tête que je ne comprenais pas. Tu sais, quand je passais les examens à l'université de Fribourg, j'allais pleurer dans les toilettes. C'était dur. Vous êtes étudiant, il faut passer les examens comme tout le monde. Tu vas dans les toilettes, tu pleures, quoi. Mais en fait, j'avais pigé, mais il fallait me le sortir des tripes. C'est ce manque de confiance. Ben oui, j'ai compris. Je suis pas aussi con que j'en ai l'air, quoi.
La vie de Jean-Philippe bascule et il découvre en lui des capacités qu'il ne soupçonnait pas. En 1982, à l'âge de 32 ans, il est ordonné prêtre et entame sa nouvelle vie en se consacrant à ceux dont il se sent le plus proche, les marginaux.
Ici à Boulogne, par exemple, et en tant que prêtre, vous auriez très bien pu vous choisir de vous occuper des familles qui sont plutôt aisées, ouais. Ici. Au contraire, vous avez choisi, vous avez toujours été vers les toxicomanes, vers les sans domicile fixe, aujourd'hui vers les travestis du bois de Boulogne. Pourquoi ?
Déjà, je suis plus à l'aise avec eux. Mm-hmm. Je sais comment les regarder, je sais comment me tenir avec eux. Ouais. Je sais que l'humour est important, le regard. Et puis, dès que je suis devenu religieux, tout de suite, je me rappelle, je suis allé voir le fondateur, je lui ai dit, mais... Parce qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de pauvres. Je lui ai dit, mais père, il y aura de la place pour les pauvres dans notre communauté. Il m'a dit, mais bien sûr, vous êtes là. Ça a été ma difficulté, c'est de les faire accepter que dans la paroisse, on accueille les plus pauvres. Mm-hmm. Puis se transmettre ce regard, qui ne soit pas simplement une relation d'aide. Parce que ça, c'est ce qui fait beaucoup souffrir souvent les pauvres. C'est que les gens, ils veulent simplement m'aider, mais ils ne veulent pas devenir mon ami.
Et des amis, Jean-Philippe ne cesse de s'en faire. Emmanuel est l'un de ceux qui a eu la chance de croiser sa route.
Dans quelles conditions vous l'avez rencontré, le père Jean-Philippe ?
Moi, concrètement, j'étais incarcéré donc à la prison de Nanterre, où il était aumônier. Donc je ne pouvais pas sortir. Et le seul moyen de sortir de la cellule, c'était d'aller à la messe. Donc le jour où j'ai réussi à enfin aller à la messe, et le père, donc on a discuté, mais d'homme à homme, pas de religion, pas de mondiaiserie ou de choses comme ça. Puis voilà, je l'ai apprécié, on a bien rigolé. Puis voilà, quoi, c'est devenu un ami. Premier jour, je suis sorti un vendredi. Il m'a présenté à ses amis, il a dit c'est mon ami, voilà. Puis j'étais accepté comme son ami, quoi, voilà. Mm-hmm. Je suis resté dans le coin.
Vous restez dans le coin, comme vous dites.
Voilà.
Vous n'êtes pas retourné en prison.
Non, toujours pas.
Vous travaillez.
Et merci. Voilà, je travaille aussi.
Ah, ça vous a apporté une certaine sagesse.
Oui, j'ai changé mon regard grâce à lui, hein. Je ne vais pas dire grâce à quelqu'un d'autre, grâce à lui. Mm-hmm. Puis surtout, il m'a transmis cette... peut-être pas la générosité qu'il a, mais au moins, là, j'ai découvert ce que c'était de faire du bien. Faire du mal, c'est facile. Faire du bien, c'est autre chose.
Ouais. Faire du mal, c'est facile. Faire du bien, c'est plus difficile.
Ouais, c'est pas mal.
Tous les mercredis, à la paroisse Sainte-Cécile, est organisé un dîner. Ce sont les mercredis du cœur, initiés depuis quelques années par le père Jean-Philippe.
Ça va bien, ouais.
Bonjour.
Tu vas bien? C'est gentil de vous dire.
Il y a un mois de temps, je suis pas venue, c'est à Noël que je suis venue la dernière fois.
Ah oui.
Il
n'est pas parti en vacances. Oui. C'est plus calme qu'à Noël.
Oui.
Ici, tout le monde se côtoie. Les SDF, les travestis du bois de Boulogne voisin, comme les paroissiens les plus aisés.
Laurent, il a une épouse qui est assistante à la prison de Nanterre au service médical.
D'accord.
Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et de temps en temps, lui vient nous aider, elle vient quand elle peut.
Ouais, tout à fait.
Alors, d'accord.
Mais c'est génial, c'est paradis. Hein, c'est super.
Ah oui.
Ouais, Jean-Philippe.
Ça fait longtemps que vous venez?
Ça fait ouais, plus d'un an.
Ouais.
Ouais. Ouais. C'est super.
Qu'est-ce que vous y trouvez là, ici?
La vraie vie.
La vraie vie.
C'est les gens tels qu'ils sont.
Ouais.
C'est la vérité là. Là, on a la vie en face de nous. Mm-hmm. Ça nous remet en cause, ça nous bouge.
En cuisine, l'équipe de bénévoles s'active. Entre 80 et 140 repas sont servis chaque semaine. Plusieurs sociétés ou magasins du quartier participent.
Manu et moi, c'est un bénévole ici. On est amoureux, Manu et moi. Ça fait 3 ans qu'on est amoureux.
Vers 22h, les mercredis du cœur ferment leurs portes. Mais la nuit continue pour le père Jean-Philippe. Comme chaque soir, à bord du camion de l'association Magdalena, il retourne au bois de Boulogne auprès des transsexuels. Miranda vient du Venezuela. C'est une de celles qui apprécient la présence du camion dans le bois. Pour elle, le regard bienveillant du père contribue à leur redonner une dignité.
On est des êtres humains, on a un cœur. Mm-hmm. On est faible, on sent le mal aussi, quand des fois ça arrive pour rien, comme agression, ou verbale, ou insulte, ou moquerie, tout ça, ça blesse. Et c'est dommage parce que ce n'est pas ma faute. J'étais petit, à l'âge de 9 ans, quand la première m'a fait un rapport sexuel, on va dire ça comme ça. On m'a abusé sexuellement parce que j'avais 9 ans à cet âge-là. Je ne savais rien de ce qui se passe dans l'intimité de deux personnes. Et cet homme-là avait 20 ans au plus. Donc c'est la faute à lui. C'est un pédophile.
Ouais.
Mais ça fait du bien quand même que le père vienne. Surtout en hiver, quand il fait froid. Ouais. On adore aussi prendre un petit repas, un petit réfrigère, un café, un chocolat. Et on peut se confier. On peut les dire des fois même la tristesse, l'angoisse. Mais je voudrais vraiment faire comprendre à les gens qu'il n'y a pas seulement que c'est un travesti, la prostitution. Mm-hmm. On est capable, même si parfois on n'a pas passé pour des études universitaires. Mais regarde, sans même pas aller à l'université, je sais écrire, lire et parler quand même 5 langues à peu près. Mm-hmm. Donc je suis fier. Au moins, ça c'est une grande fortune qu'un jour je repartirai dans mon pays.
Je vous D'accord? embrasse.
Bon.
Bonne merci nuit et bon courage.
Okay,
merci Miranda.
Au revoir.
Avec Miranda, j'ai compris encore plus ce rapprochement du père avec ceux qui ont connu les mêmes souffrances que lui.
On dirait que vous êtes heureux de cet échange.
En même temps, je les aime, quoi. Je n'ai pas envie qu'il y ait le... Tu vois, il y a quand même des gens qui se font agresser, qui se font tuer dans le bois. Il y en a comme ça, elles finissent à l'hôpital. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'elles font, quoi. Mm-hmm. Qui sont eux-mêmes addicts au sexe, mais qui leur foutent sur la gueule, qui, comme dans l'Évangile, quoi, qui leur crachent dessus. Mm-hmm. Et c'est pour ça que, quelque part, je veux pas être leur protecteur, ça, c'est pas mon... Mais je veux vraiment être leur ami, quoi. Mm-hmm. Leur montrer qu'on a le souci d'elles.
Bon, en tout cas, il est loin, cet enfant blessé.
Pourtant, il est toujours là.
Il est toujours là. Ouais.
Ouais, heureusement. Mm-hmm. Parce que j'ai mon côté fragile, j'ai mon côté pas sûr de moi, j'ai mon côté... en même temps, moi aussi, j'ai envie d'être heureux. Mais j'ai envie de... Je ne peux pas être heureux sans les autres, quoi.
Portez-vous bien.
Mais vous aussi.
Et bonne route.
Toi aussi.
Au revoir, mon père.
Au revoir.
Au revoir, Padre.
Reconnaître l'autre, lui parler, le regarder simplement, y faire attention. Le père Jean-Philippe m'aura rappelé combien ces valeurs sont importantes pour tous ceux qui sont rejetés et qui, par ces petites attentions, le temps d'un échange, se sentent exister. Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une production Europe 1 Studio. Réalisation, Mathias Elena. Diffusion, Héloïse Bertil. Pour écouter la prochaine histoire, je vous propose de nous suivre sur votre plateforme préférée. Et si ce témoignage vous a plu, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour en parler. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.